Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. L'évacuation d'Alep a commencé ce jeudi. La ville qui symbolisait la résistance à Bachar al-Assad a fini par sombrer sous les bombes. À Damas, le régime se gargarise de cette victoire, qui est aussi celle de la Russie, car sans la puissance de feu de l'armée russe, le sort de la deuxième ville syrienne aurait peut-être été différent. Lorsque Vladimir Poutine décide d'intervenir militairement en Syrie en septembre 2015, il n'est pourtant question à l'époque que de combattre les terroristes, ceux de l'État islamique, en tout cas officiellement. Mais dans les faits, rien de tel, puisque les soldats de Daesh ne se battaient pas à Alep. Ils en ont profité d'ailleurs au début de ce mois pour reprendre une autre ville, moins importante mais non négligeable, celle de Palmyre, l'occasion pour l'État islamique d'enregistrer un succès après une longue série de revers militaires, que ce soit en Syrie, en Irak ou plus récemment en Libye avec la perte de la ville de Sirte. Et puis il y a Mossoul, ville hautement symbolique puisque c'est là que fut proclamé le califat en juin 2014. La coalition internationale et les forces irakiennes ont lancé l'assaut il y a deux mois. Daesh y recule mais ne rompt pas, adaptant sa façon de combattre à l'évolution de la situation sur le terrain. Alors l'État islamique est-il un adversaire militaire comme un autre ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Caroline Galacteros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous dirigez un cabinet de conseil en intelligence stratégique, ce cabinet qui s'appelle Planeting.
Exactement.
Et vous êtes par ailleurs, entre autres, chroniqueuse pour l'hebdomadaire Le Point. Pour discuter avec vous, Gérard Chalian, bonsoir.
Bonsoir.
Géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés. Vous étiez en Irak il y a peu. Vous étiez où et c'était quand ?
Il y a deux semaines, en Irak, puis dans les faubourgs de Mossoul par deux fois.
Parmi vos publications, je vais citer la plus récente, c'est votre dictionnaire de stratégie que vous publiez chez Perrin avec Arnaud Blin. Et puis il y en a une autre qui arrive, je crois, en 2017, en janvier, Terrorisme et politique, aux éditions du CNRS.
Recueil de poèmes, un recueil de poèmes qui vient de paraître chez Poésie Gallimard, la chose dont je suis le plus fier, puisque je l'ai eu à titre non posthume.
Pour discuter avec vous, je ne sais pas s'il sera beaucoup question de poésie dans cette émission, on va voir, ça dépendra peut-être aussi un petit peu de notre troisième invité, Hicham Daoud, bonsoir.
Bonsoir.
Anthropologue, vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de l'Irak, vous avez notamment longtemps été le responsable de l'antenne irakienne de l'Institut français du Proche-Orient. Alors on va parler de l'État islamique, mais je voudrais commencer peut-être par parler d'Alep, de cette ville où, alors semble-t-il, en tout cas, les combattants de l'État islamique n'était pas présent dans cette bataille, en tout cas pas de manière massive. Est-ce que déjà c'est une chose que l'on peut affirmer de manière aussi certaine, Hicham Daoud ?
Oui, ce n'était pas la zone de Daesh traditionnelle. Vous savez, la question se pose à Damas et à Moscou, à Téhéran, de manière différente. Qu'est-ce qui menace le pouvoir de Bachar al-Assad ? Il considérait stratégiquement que ce n'était pas Daesh au départ. Donc ce sont les rebelles qui étaient soutenus par la Turquie, par les pays de Golfe, par les Occidentaux, donc pour changer le régime depuis 2011. Donc la première bataille, ça a été contre ces adversaires qui étaient plus ou moins acceptés à l'extérieur. Ils l'ont repoussé de plusieurs villes, et dernièrement, là, depuis quelques jours, quelques heures même, de Alep. Daesh, il s'est trouvé de l'autre côté, c'est vrai, et d'autant plus comme il y a un front à l'échelle mondiale anti-Daesh. Pour Moscou, c'était, il faut s'en servir de ce repli-là, affaiblir l'adversaire, les autres, contre Daesh, il va se trouver avec le monde entier. Voilà le jeu, la stratégie, le pari. Malheureusement, c'est un pari cynique, mais réussi jusqu'à maintenant, et ça marchait.
En tout cas, on peut dire que la bataille d'Alep n'était pas une bataille contre l'État islamique, Gérard Chalian.
Non, absolument pas. Seulement, il faut tout de même donner une précision, là. Depuis des 2-3 ans, on vous parle des forces de l'opposition. Alors, ça veut dire quoi, les forces de l'opposition ? Je vois ça beaucoup, par exemple, dans les journaux anglo-saxons. C'est très poli, les forces de l'opposition. C'est qui ? C'est Al-Qaïda. C'est Harar al-Sham. C'est les 15 ou 20 membres d'islamistes qui se retrouvent dans Jaish al-Fatah. En d'autres termes, si
c'est
vous
l'armée
voulez,
syrienne libre aussi,
une
non
bonne fois. Oui, ben là, justement. Alors, l'armée syrienne libre, à votre avis, ça représente quel pourcentage ? Parce que c'est à l'abri de ça, finalement, qu'on se raconte des salades. Est-ce qu'il y a une option démocratique, très franchement, en Syrie ? Oui ou non ? La réponse, c'est aujourd'hui, en aucun cas. Possible en 11 ou 12. Possible. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, les islamistes, ils sont les 90% de l'opposition. Et nous, dans nos médias, nous avons fini par nous tétaniser, nous coaguler sur le fameux Daesh, comme s'il était le seul. Le Daesh, ce n'est qu'une des composantes. Ils ont réussi à ravir la une, parce qu'ils ont des méthodes très particulières, mais ils ne sont pas les seuls. Qui dirigeait, par exemple, à Alep, le siège? Je veux dire, les gens qui se battaient contre, en quelque sorte, les forces de M. Bachar, appuyées par les Russes et bien d'autres, eh bien, c'est Jabhat al-Nosra qui s'est réhabilité en s'appelant aujourd'hui Fatah al-Jash. C'est-à-dire qu'il a changé d'affiliation apparente, mais c'est les mêmes.
Caroline Galacteros.
Oui, je ne peux qu'appuyer ce qui vient d'être dit par Gérard Chalian. Daesh, c'est la tête d'une gorgone. Alors bien sûr, ils sont en rivalité avec d'autres groupes, etc. Mais c'est la tête d'une gorgone islamiste. Et c'est celle vers laquelle, évidemment, étant donné ses modes d'action spectaculaires et terrifiants, toute l'indignation internationale et toute la capacité internationale s'est focalisée, faisant du coup passer par contraste tous les autres pour effectivement des rebelles, des opposants modérés, plus ou moins, bon, selon tout un tas de déclinaisons qui sont quand même assez artificielles. Donc en fait, aujourd'hui, Alep tombe, c'est al-Nusra qui était à l'intérieur d'Alep quand même et qui donc finalement subit une défaite.
Alors al-Nusra qui peut être vu comme un rival de l'État islamique, est-ce que on pourrait dire, est-ce que vous pensez les uns et les autres que justement la chute d'Alep, ça peut être quelque chose sur lequel l'État islamique va pouvoir capitaliser, soit parce que ça peut lui redonner une forme de légitimité auprès des opposants au régime de Bachar al-Assad, et puis aussi peut-être à accélérer ou relancer une forme de recrutement des combattants. Non. Vous dites non, vous, Caroline Galacteros.
Non, je pense. Daesh, il a, à mon avis, son idée, sa stratégie, qui est, si jamais on arrive à le sortir de Raqqa, de Mossoul et d'un certain nombre d'autres bastions actuels, d'en trouver d'autres. Il est quand même très étonnant que la ville de Palmyre ait été reprise avec une telle facilité. Il est vrai que l'offensive sur Raqqa s'était miraculeusement arrêtée pendant quelques temps, donc en permettant quand même à Daesh de prendre, finalement, soi-disant par surprise, mais très lourdement armée, cette ville. Donc là aussi, on peut se demander comment est-ce qu'on peut laisser faire, étant donné nos moyens d'observation du territoire et du champ de bataille, comment est-ce qu'on a pu laisser faire une telle opération ? Donc Daesh ne va pas profiter de ce qui peut aller contre al-Nusra ou d'autres groupes. Et ils ont à la fois des stratégies rivales, mais non, c'est pas l'un contre l'autre.
Vous êtes d'accord vraiment avec ça, Hacham Daoud ?
Écoutez, concernant Daesh et concernant Jabhat al-Nusra, une multitude. C'est vrai, depuis 2011-12, le soulèvement syrien s'est déraillé. Une alternative crédible qui peut constituer acceptable pour la population, pour la région, à l'échelle internationale, est devenue beaucoup plus compliquée. C'est transformé en une tuerie un peu généralisée. Nombre de groupes qui se trouvent face à Bachar al-Assad et ses alliés, que ce soit au niveau de l'Iran, des milices chiites et de la Russie, des centaines de petits groupes et de groupes. Avec certains, ils sont plus importants que d'autres, comme Jabhat al-Nusra, comme Daesh, comme etc. C'est vrai, du point de vue d'alternative, ça ne peut pas constituer quelque chose qui souhaitaient les Syriens et nous-mêmes aussi. Deuxièmement, au niveau régional, qui restait avec l'opposition syrienne jusqu'à aujourd'hui ? C'est le pays de Golfe qui se trouvait dans une guerre pas possible avec l'Iran. Tout d'un coup, la guerre de la Syrie, la crise syrienne est devenue une crise régionale et internationale. Maintenant, avec le recul qui se passe autour de Alep, avec aussi le recul de Daesh, il y a deux options. Soit que tout ce groupuscule se transforme, se métamorphose en d'autres formes d'agissement djihadiste, soit qu'il se trouve par la force des choses plus proche, voire même de coordination possible entre eux. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Les deux options sont possibles. Après Alep, après quelques batailles qui se passent, et peut-être après Mossoul, quel type de rapprochement parmi toutes ces multitudes de djihadisme, que ce soit en Irak, peut-être un peu moins en Irak, étant donné Daesh est omniprésent, mais en Syrie aussi, la question se pose.
Donc c'est une façon de dire que si l'État islamique ne va peut-être pas capitaliser sur la chute d'Alep, c'est une option en tout cas qui peut être envisageable. Votre point de vue, Gérard Chalian ?
Non, en aucun cas, non. Alep, c'est fini pour le Daesh. Le Daesh, aujourd'hui, ils ont deux combats majeurs. D'une part, à Mossoul, c'est-à-dire conserver la seconde ville irakienne, En ce moment, ils sont sur la retraite, ils sont encerclés. Les forces kurdes avancent et ont nettoyé l'ensemble des villages qui étaient tenus par leurs adversaires. Les troupes irakiennes chiites avancent et ont pénétré en ville. Ça va prendre beaucoup de temps parce que le Daesh a décidé de transformer leur défaite ultime en une sorte de victoire morale pour montrer à quel point leurs combattants sont vaillants. Ils vont sauvegarder en quelque sorte l'aura de ce mouvement, parce que ce mouvement, il a de l'avenir. On ne va pas l'achever parce qu'il aura perdu une ville.
Ça veut dire que le vrai objectif de militaire de Daesh, de l'État islamique, ça n'est pas de, forcément de conserver cette ville où a été proclamé le califat, mais c'est quoi ? C'est de faire durer les combats le plus longtemps possible pour en retirer un maximum de gloire et de gloire ?
De gloire, bien sûr. Parce qu'ils ont eu un très bon moment. C'était l'été 2014. L'été 2014, c'était merveilleux. On s'empare de Mossoul quasiment sans coup férir. On dit la frontière n'existe plus, nous sommes territorialisés, on instaure un style très particulier, c'est-à-dire le style de la terreur ouverte, ce qui est rare. En général, on terrorise, mais en catimini. Hein, même Adolf Hitler a liquidé les Juifs de façon discrète. Là, non. Vous faites véritablement l'étalage de l'horreur, la théâtralisation de l'horreur. Vous vous imposez par la terreur, un peu comme les Mongols qui, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, avaient besoin de faire peur. Voilà. Il faut qu'on dise « Ah, les v'là ». Et au moment où on dit « les v'là », déjà, je craque. Voilà. C'est ça la façon de travailler de ces gens. Et aujourd'hui, ils sont sur le retrait. La période du style « la victoire est au bout du fusil », c'est fini. Les 20 ou 30 000 qui sont allés faire le djihad, ben, ils ont compris que ce n'était pas un djihad qui allait déboucher rapidement sur la victoire. Mais les conditions font qu'ils vont continuer ce combat longtemps ailleurs et ils ne seront pas les seuls.
On n'est plus en tout cas dans une phase d'expansion territoriale aujourd'hui avec l'État islamique, Caroline Galacteros ?
Non, mais de dispersion intelligente, de multiplication de modes d'action divers, de prosélytisme intense malgré tout. On est effectivement dans un type de djihad maintenant qui a quand même beaucoup changé depuis Al-Qaïda, j'allais dire canal historique. Hein. C'est vraiment amplifié par tout un tas par les réseaux sociaux, par aussi les images worldwide que nous subissons tous et qui, de leur point de vue et du point de vue de tous ceux qui sont dans un esprit justement de vengeance, d'indignation, de rejet, sont un formidable vecteur, enfin ferment de conviction et d'action.
Derrière. Mais ça peut quand même être considéré comme un échec pour cette organisation qui justement a acquis une grande partie de sa notoriété sur cette promesse de rétablir un califat, c'est-à-dire un territoire qui soit administré, et ce qui a été le cas quand même pendant un temps.
Moi je pense que maintenant le vrai sujet, ça va être qui continue à les soutenir, pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette zone ? Parce que la chute d'Alep, comme d'autres avancées ou reculs militaires d'ailleurs, c'est surtout, pour moi, la fin de d'un pari occidental, d'un pari de soutien aux monarchies sunnites, d'un pari du régime change. Tout ça, c'est en train de tomber pour de bon. Et je pense qu'on est, moi, dans une mutation des relations internationales très profonde, très forte, qui va aller vers un réalisme pur et dur. Et Daesh ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Daesh est soutenu, Daesh est armé, Daesh est financé. Alors certes, il y a le pétrole, etc. Ils ont des moyens aussi, ils ont le racket, ils ont bien sûr. Mais ils ont malgré tout, sinon un soutien, du moins une complaisance tacite qui leur a permis d'aller jusque là où ils sont allés et qui aujourd'hui n'a pas forcément, pour d'autres raisons qui sont très loin de ce terrain-là, intérêt à les laisser totalement tomber.
Ils ont moins besoin aujourd'hui, les combattants de l'État islamique, Cheikh Naoud, d'avoir un territoire étendu, territoire dont on a peut-être aussi d'ailleurs surestimé l'importance à un moment donné, je ne sais pas.
C'est une multitude d'ailleurs d'erreurs de la part de Daesh dès le départ. Daesh voulait s'imposer comme un quasi-État communautariste, basé sur une violence ouverte, exposée, et multipliant les adversaires. Et à la rentrée dans une entreprise impossible à tenir. Par exemple, Qaïda, pour les différencier de Daesh, Qaïda visait essentiellement ce qu'on appelle l'adversaire lointain. Daesh visait davantage l'adversaire proche, les chiites et les kurdes et les autres. Mais à un moment donné, a changé de stratégie en visant l'adversaire non seulement à moyen terme, c'est-à-dire à moyenne distance, les pays de Golfe, les autres pays sunnites, etc., mais y compris l'Occident. À partir de là, et puis un territoire étendu. Par une logique de guerre, d'ailleurs, c'est le nom de l'émission. La guerre de Daesh, c'est comme les autres. Quelle forme de guerre mène Daesh? Est-ce qu'on a les moyens, si on n'a pas l'aviation, si on n'a pas de force, il peut tenir la terre sur un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne, le tenir face à une coalition régionale, nationale et internationale? De là, c'est vrai, ceux qui sont pariés que Daesh, il peut modifier la frontière, modifier la structure étatique, modifier tout cela, ils l'ont parlé à frais aujourd'hui. Daesh, certes, souhaite de garder les territoires conquis, mais il est très difficile, je crois, il est sur la pente un peu perdante.
Et pourtant, Hacham Daoud, Dieu sait qu'on en a fait quand même un adversaire militaire redoutable, jusqu'à notre ministre de la Défense, par exemple Jean-Yves Le Drian, qui disait, voilà, c'est un acteur puissant, déterminé, qui utilise à la fois les moyens classiques, alors du terrorisme, ça certes, ça demande peut-être moins de moyens, mais aussi des moyens conventionnels, et l'estimation sur laquelle semblait s'entendre à peu près la plupart des experts, c'était en gros entre 25 000 et 30 000 soldats. Ça suffit pas, bien sûr, d'avoir des soldats pour administrer des territoires, mais c'était quand même une armée qui était censée être suffisante pour quand même garder les territoires qui avaient été conquis, non, Gérard Chalion?
Moi, je ne vais pas arrêter de dire qu'on les a surestimés, c'est nous qui avons fait leur publicité. Exactement. Je veux dire, on a gonflé ce mouvement comme ce n'est pas possible, en oubliant d'ailleurs les autres, ce qui permettait aux autres de se glisser et d'être sournoisement très présents dans les zones les plus sensibles. Dans la pratique, c'est un mouvement qui est bien structuré, cohérent, c'est un mouvement révolutionnaire. Quand ils prennent le contrôle d'une ville, ils essayent d'y mettre une administration. Ils s'emparent tout de suite des écoles et ils essayent d'inculquer aux gamins entre 10, 11 ans et 14, 15 ans l'essentiel de ce qu'ils ont envie de leur véhiculer, etc. Bon, je les prends au sérieux. Mais enfin, ça quand même qu'une organisation, de guérilla... De bonne qualité, pas meilleur que les Tigres tamouls, pas meilleur que le FPLF de l'Érythrée, etc. Voilà. Et alors on en a fait une sorte de vedette extraordinaire, parce que finalement nos médias, en fin de compte, ils vivent de la vente d'angoisse, et c'est une occasion. Alors quant à nos observateurs, nos politiques, mais qu'est-ce qu'ils savent, nos politiques, très franchement? Ils savent jamais que ce qu'on leur véhicule, puisqu'ils y ont pas été, puisqu'ils ont pas vu exactement ce que les types peuvent faire sur le terrain. Quand vous avez été hors de la violence, et que vous avez deux conseillers qui viennent vous dire, voilà, il y a l'option A, l'option B. Vous choisissez comment, vous? Peut-être l'option B parce qu'il est du même parti que vous, ou l'option A parce que ça a l'air plus sympa? C'est quoi votre choix?
Mais alors ça veut dire que de votre point de vue, Gérard Chalian, il faudrait justement faire un adversaire comme un autre, c'est-à-dire qu'il faut combattre parce qu'il y a des combattants en face, mais qu'il ne faut pas ni surestimer le niveau peut-être d'invincibilité, ni même aussi la motivation qui peut être celle des soldats, parce que c'est aussi beaucoup ce qu'on dit, c'est qu'au sein de l'État islamique, la difficulté, c'est qu'on a des gens qui sont tellement convaincus de la cause qu'ils défendent, qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour la défendre, jusqu'au bout, c'est-à-dire la mort, et la mort qui en entraîne d'autres à côté.
Mais dans Al-Qaïda aussi, je veux dire que dans ce qu'on appelle le djihadisme, il y a cet appel de la mort, il y a cette acceptation du martyr, fascination de réaliser justement ce destin-là. C'est pas particulier à eux. Al-Qaïda, c'est pareil. Le nombre de types qui se sont fait sauter, enfin tout ça, ça remonte. Les premiers qui ont commencé ça, imaginez-vous, ce sont les chiites du Liban. Voilà. Une société dans laquelle le sacrifice ne date pas d'hier. Bon, et puis après ça, les gens se sont rendus compte que, vraiment, si on veut être efficace, il vaut mieux avoir un type qui se suicide, parce que au moins on n'en a qu'un seul de perdu, au lieu de perdre 15 types, sur lesquels 10 ou 12 vont se faire descendre avant même d'avoir atteint le truc. C'est-à-dire, c'est un truc rationnel et économique. Avoir des types qui sont prêts à mourir pour atteindre un objectif, c'est beaucoup moins coûteux que d'avoir une offensive par des gens qui préféreraient rester en vie.
Ce sont plus des individus rationnels au Cham Daoud que des individus qui sont totalement fanatisés et idéologisés et qui sont prêts à aller à la mort sans réfléchir finalement, et parce que simplement pour servir la cause de l'État islamique.
Oui, tout à fait. Non, ça me permet de rebondir, par exemple, sur la thèse de l'apocalyptique, etc., pour dire que tous ces gens-là, ils sont complètement bourrés le crâne, ils sont là pour mourir, et donc ils n'ont pas d'autre chose que de mourir, etc.
Et que le seul moyen, en plus, de vaincre, du coup, Daesh, ça serait d'éradiquer tous ces combattants.
Oui, écoutez, on prend la question, aujourd'hui, l'armée de Daesh, qui se trouve, disons, à Mossoul et ailleurs, ça fait de quoi? De 6 à 7 000 maximum de combattants. Une grande majorité, ils sont des Irakiens. La plupart d'entre eux, ils sont des Irakiens de la périphérie de Mossoul ou de villes à la limitrophe. Ils ont une manière d'aborder la vie des autres, je dirais presque dans une hostilité intrinsèque historique. Il y a une forme d'animosité entre toute cette région, et animosité avec le pouvoir central à Bagdad, animosité par rapport à la pratique politique, animosité par rapport, y compris la classe politique sunnite qui se trouve. Toute cette rupture, toute cette forme de guerre, etc., accumulée, c'est créer une forme d'opposition, les gens qui s'encastraient là-dedans. La plupart du temps, ces gens-là, ils sont bien sûr sur les préceptes religieux, mais aussi parce qu'ils considèrent le pouvoir chiite, il ne les a pas accordé assez de reconnaissance, ils sont marginalisés, le pouvoir qui les a écartés. Donc il y a un problème politique au départ. Mmh. Le problème politique n'est pas résolu, au contraire, il était amplifié. Mmh. Et puis il y avait aussi le problème au niveau de la région. Donc ces gens-là, ils sont avec Daesh, mais pas chaque instant, ils sont ici en train de réfléchir comment il faut se transformer en kamikaze. La plupart du temps, aujourd'hui, Mossoul est encerclé. Moi, je suis en contact tout le temps avec des gens qui se trouvent à l'intérieur de Mossoul. Ils sont en train de négocier comment ils peuvent retourner dans leur tribu, dans leur village, comment ils ne peuvent pas être embarqués par l'armée. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique un peu, je dirais, propagée d'ici, que nous avons une armée de 30 000 personnes prêtes tous à mourir, non, dans une idée apocalyptique, dans une idée de mort, dans une idée de nihilisme. Je crois que c'est quelque chose un peu de fabriqué, qu'on jette sur la réalité là-bas sur place. Les données sont un peu différentes. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes face à Daesh, c'est une armée pas comme les autres, mobile, petite unité. Assez souvent, il y a, c'est vrai, des kamikazes, c'est vrai, ce qu'on dit une rémation, ça veut dire ceux qui pénètrent dans le front des autres. Nous avons aussi une partie des gens qui sont ce qu'on appelle, la partie, vous savez, la plus importante chez Daesh, c'est quoi? C'est pas tout cela. C'est ce qu'on appelle le conseil spécial. Le conseil spécial constitue la moitié de l'armée de Daesh. Ils sont dirigés essentiellement par des anciens militaires. Ils sont très bien formés. Ces gens-là, c'est eux qui produisent la première attaque. C'est eux qui essayent de maintenir la terre et le lieu d'attaque. Donc, c'est vrai, il faut voir Daesh à géométrie variable, comment il se constitue, comment il attaque.
Alors, est-ce que ça veut dire, et ça c'est une question que je vous pose à tous les trois, que pour combattre Daesh aujourd'hui, pour combattre l'État islamique, il faut aussi envisager ce qu'on envisage dans n'importe quel autre type de conflit, c'est-à-dire, au-delà de la solution militaire, une solution politique pour au moins, en tout cas, extraire une partie de ces combattants, de ces militants de Daesh et les faire revenir peut-être dans la vie civile, comme ça se passe dans d'autres guerres. Caroline Galacteros.
Ce qui est certain, c'est que dans la foulée de l'invasion américaine de l'Irak en 2003, il y a eu là un terreau extraordinaire de fureur, de sentiment de marginalisation qui n'était pas un sentiment sorti de nulle part, qui était une véritable marginalisation, et que bien sûr, sans doute, mais je ne suis pas aussi spécialiste que mes deux acolytes ce soir, mais il est évident qu'il va falloir réintégrer politiquement, d'une manière ou d'une autre, les sunnites, que ce soit en Irak ou que ce soit d'ailleurs en Syrie. Il va falloir trouver dans les processus politiques et diplomatique, une fois que on sera arrivé à un stade militaire où ça deviendra vraiment possible et intéressant pour un certain nombre de parties, pour les parties au conflit principal et leurs parrains respectifs, il va falloir trouver des moyens de faire en sorte que l'on n'ait plus intérêt à se battre de la même manière.
Est-ce que ça veut dire que ça peut aller jusqu'à envisager de discuter avec, si ce n'est Daesh, en tout cas avec certains membres de cette organisation ?
Moi, je prétends qu'il faut discuter, enfin que c'est ça la diplomatie, c'est ça la politique. Il faut discuter de tout avec tout le monde et tout le temps. Donc voilà. Bien sûr, il y a l'horreur, il y a l'écœurement devant les modes d'action, etc. À un moment donné, si on veut véritablement un apaisement, il faut régler un certain nombre de problèmes. D'abord entre les très grands, c'est-à-dire entre les Russes et les Américains. Ça, je pense que voilà. Et c'est là que ça devient assez compliqué. Ce serait intéressant d'en parler. Et ensuite, bien sûr, avec les puissances régionales et ensuite avec les partis au conflit qui instrumentalisent tout ça et qui instrumentalisent aussi les affrontements sectaires, les chiites contre les sunnites, etc.
Gérard Chalian, ensuite, Hocham Daoud.
Oui, bien sûr que c'est un mouvement qui n'est pas composé de kamikazes. Hein. C'est un mouvement qui a des kamikazes. Voilà. Je vous signale que ce n'est pas les premiers. Hein. En 1968, lors de la fête du Tet, il y a eu 19 membres du FNL qui sont rentrés dans l'ambassade américaine. Les mecs qui sont rentrés dans l'ambassade américaine savaient très bien qu'ils n'en ressortiraient pas. C'était une opération suicide. Mais montrer qu'on est capable, au moment où le général Westmoreland dit « ils sont presque finis », qu'on peut arriver dans l'ambassade américaine et tenir toute la nuit avec 19 mecs dedans, ben voilà, ça change les choses. C'est très important, c'est-à-dire vous perdez la bataille militaire, mais vous gagnez la bataille politique. Or, c'est ça, la guerre. Bon, donc, ce mouvement, si vous voulez, est un mouvement qui est né, il faut bien le dire, de l'erreur américaine de 2003. En 2003, c'était une guerre de choix. Ils ont marginalisé stupidement les sunnites par deux fois. Une fois en renvoyant les armées, l'armée à la maison. La seconde fois en disant qu'ils n'avaient pas le droit, en tant que membres du parti basse, quel que soit leur échelon, de faire partie de la future administration. Bon, et pour un sunnite, alors les types vous disent, mais on était au pouvoir depuis toujours, nous, on y était du temps de l'Empire ottoman, du temps du mandat britannique, du temps du roi, du temps de Kassem, et maintenant. Et alors vous venez là, vous, les étrangers, et vous dites, bah, c'est fini, vous, et vous mettez qui? Alors des chiites, que à tort ou à raison, nous considérons comme des hérétiques, mais on a toujours dominé, et des Kurdes qui sont même pas arabes et que nous combattons depuis 60 ans, et vous voulez qu'on soit content? Non, on prend les armes, et ils les ont prises. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Alors après ça, on se radicalise. Il est évidemment beaucoup plus intéressant de se battre au nom de l'islam militant que de se battre au nom de M. Saddam Hussein qui est mort et du bassisme qui n'existe plus.
Mais voilà. Ça, c'est valable, Gérard Chalian, s'agissant de la situation en Irak. Mais aujourd'hui, l'État islamique, c'est aussi des combattants qui se retrouvent bien au-delà de la sphère géographique d'influence justement de cette organisation. Ce sont des attentats un peu partout dans le monde, et en particulier en France. Donc on voit bien quel point ça a dépassé quand même.
Vous avez raison.
Des considérations purement locales.
Mais on parlait de l'Irak. En Irak, il faut qu'ils offrent une solution aux 20% de sunnites. Voilà. Maintenant, effectivement, si vous voulez, ce mouvement se veut, il se veut pan-islamique. Voilà, disons le mot. Il se veut pan-islamique. Il veut animer un mouvement de révolte généralisée à travers l'islam qui, d'une façon générale, au bout de 20 ans, n'est pas extraordinaire. Il y a ceux qui vous disent que c'est l'apocalypse. Moi, je dis, après 20 ans d'agitation, c'est pas extraordinaire. Bon, nous, on pleurniche parce qu'on a eu 4 ou 5 attentats. Mais enfin, je veux dire que, dans l'ensemble, il y a eu 2% d'attentats dans les pays occidentaux et 98% d'attentats dans les pays musulmans. Alors, il faut quand même être un peu sérieux sur ce qu'on paye.
Hocham Daoud.
Oui, écoutez, ça concernant encore la question de Daesh et la logique militaire. Il faut négocier avec Daesh. Bien sûr, personne n'imagine de négocier avec Daesh. Mais il faut connaître l'adversaire. Daesh, aujourd'hui, est fait d'Anel en Syrie, en Irak. Et qu'on étudie ça de près, on sait qu'ils sont traversés par deux courants. Même à l'intérieur de Daesh, il y a deux courants. Il y a d'affinités. Il y a ceux qui sont de côté de religieux, ceux qui sont de côté de, par exemple, de partis de Mossoul, ceux qui sont de côté d'autres villes. En Syrie, c'est différencié. Il n'y a aucun Syrien dans l'instance dirigeante de Daesh en Irak. Il y a plusieurs Irakiens dans l'instance dirigeante de Daesh en Syrie. Ce qui montre la prédominance irakienne. Donc, tout cela se transforme après en contradiction à l'intérieur. Les gens, ils le connaissent. Donc, aucun pays dans la région et dans le monde ne préconise de discuter avec Daesh. En revanche, il faut quand même affaiblir Daesh de l'intérieur. Une des raisons, par exemple, on prend la bataille de Mossoul aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, l'armée irakienne a adopté une stratégie de bloquer une ville de 3 parties, en laissant la quatrième ouverte. Sauf à Mosul, on a totalement encerclé la ville. Depuis hier, je vous apprends quand même quelque chose, que la dernière pont qui relie le côté est et ouest de Mosul a été détruite. Donc à ce moment-là, on a bloqué toute une population à l'intérieur, et presque 6 à 7 000 personnes. Une bonne partie d'entre eux, ils étaient là pour fuir, soit vers la Syrie, soit reculer vers leur village, etc. Et affaiblir Daesh de l'intérieur. Donc avec cette stratégie, on a quand même rentré dans une logique presque jusqu'au boutisme. Est-ce que les Irakiens ou l'Iran, ce qu'on accuse tout le temps, et la milice chiite, ils étaient uniquement derrière ça? D'après mes informations, pas seulement. Mais il y a y compris des pays de l'extérieur, et ils souhaitent en finir avec tous les djihadistes à l'intérieur de Mosul, sous peur qu'il échappe, il vient en Occident, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui se passe là. Comment on veut en discuter, affaiblir Daesh, y voir, et puis de l'intérieur donner d'alternatives. Les sunnites, ils n'ont pas jusqu'à aujourd'hui d'alternatives, ni politique, ni participation au niveau de l'État, ni fabrication au niveau de la région. La question essentielle, c'est là.
Donc si je vous entends bien, vous me dites finalement ce soir que il y a une logique jusqu'au boutiste, mais qui n'est pas seulement peut-être une logique jusqu'au boutiste du côté de l'État islamique, mais aussi par rapport à ceux qui combattent aujourd'hui cette organisation. Est-ce que cette logique-là, elle est liée à une mauvaise connaissance, à une mauvaise compréhension justement de ce que vous venez d'expliquer, Hochem Daoud, c'est-à-dire des tiraillements qui peuvent exister au sein de l'État islamique, ou bien est-ce que c'est une stratégie délibérée, mais auquel cas, c'est une stratégie qui aurait quel objectif?
Écoutez, moi, je ne crois pas que Daesh n'était pas au moins infiltré, qu'on connaissait rien sur Daesh de l'intérieur, que Daesh bénéficiait pas de complicité de tel ou tel pays, à un moment donné, un autre, qu'on faisait pas usage. Que même à l'intérieur de l'Irak, telle ou telle puissance, même deux fois, vous voyez, entre le nord et le sud de l'Irak, quand, après 2014, quand Mosul a chuté, on avait deux positions frontalement différentes. Erbil, il disait, écoutez, pour nous, l'Irak est fini, parce que nous avons une nouvelle frontière. Tandis que Bagdad, il disait, écoutez, Daesh, il arrive jusqu'à la frontière de Bagdad pour en finir avec les chiites. Donc, vous voyez, à partir de là, on avait deux positions très différentes. À l'échelle régionale des pays arabes et d'Iran et d'autres, à l'échelle internationale, on avait des stratégies très différentes. Prenez même la France. La politique qu'on avait par rapport à Daesh jusqu'à 2015, jusqu'à Bataclan, était une politique, je dirais, de nini. On ne choisit pas entre les adversaires qui se trouvent sur le terrain jusqu'au moment que Daesh s'invitait chez nous. À ce moment-là, on dit « Ah, Daesh est devenu notre adversaire numéro un ». À partir de là, on a changé de position, de stratégie. Ça, c'est la même chose qui s'est passée là-bas. Je crois que Daesh a bénéficié un moment. Aujourd'hui, il se trouve face à un bloc international. On a des connaissances suffisantes sur Daesh. La composition interne, la structure sociale, l'affinité politique, le cheminement. Vous savez, Daesh aujourd'hui, il a par exemple, je vous donne quelque chose, sous le contrôle de Gérard Chalion, il y a des tanks, d'artillerie, etc. Daesh, il n'arrive pas à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas sortir. Il y a de l'aviation, il y a des drones, il y a des satellites, il y a tout cela. Exact. Donc Daesh est réduit à strict minimum de mouvements militaires. Là, c'est vrai, on peut les réduire davantage. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire les jours après?
Voilà, donc les réduire davantage, c'est possible. Éradiquer en tout cas cette organisation, c'est totalement inenvisageable. Est-ce que c'est envisageable peut-être une autre option, qui serait une option qui existe dans le cadre de conflits armés peut-être plus traditionnels, Caroline Galacteros, qui serait celle d'une capitulation de l'État islamique? Parce qu'on voit bien quand même que c'est une organisation qui aujourd'hui perd beaucoup de terrain, perd beaucoup de villes. Ou bien est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'entre pas non plus dans la logique de cette organisation?
Non, parce que là, vous faites comme s'il y avait une symétrie. C'est pas parce qu'ils ont déclaré une.
Je le fais parce que comme vous proto, avez tendance un peu à normaliser un peu cette organisation
non,
ce soir.
Non, je la normalise pas. J'essaie de regarder froidement comment sont les choses.
Elle n'est pas ce qu'on en dit en tout cas.
Elle n'est pas ce qu'on en dit. Et elle sert à certaines choses et elle sert à certaines politiques qui sont menées, qui à mon avis sont extrêmement dangereuses et avec lesquelles il faudrait vraiment cesser. Bon, ça c'est mon point de vue. Je pense que le risque de Daesh, c'est surtout les métastases, et on le voit bien dans les attentats, même si ça n'est pas grand-chose en pourcentage pour nous. Il est évident que ça compte malgré tout, et considérant nos populations musulmanes, etc., considérant l'Europe, là, nous avons des vrais problèmes sur ce qu'il va advenir de Daesh, à supposer qu'il soit extirpé de ses bastions territoriaux actuels. La capitulation... Ça me semble.
Hors champ.
Je vois pas quel intérêt ils auraient à capituler, quel intérêt on aurait à chercher à les faire capituler. Non.
Bah, l'intérêt, ça pourrait être de sauver leur peau, simplement.
Non, mais ça n'est pas, ça n'est pas dans la logique du mouvement.
Oui,
la capitulation n'est pas dans la logique du mouvement, elle est d'aller ailleurs.
Ils vont se déplacer, ils vont se diffuser, ils vont se rhizomiques, ils vont aller partout, ils vont faire des alliances. C'est une organisation aussi très opportuniste, très structurée, mais très opportuniste. Donc je vois plutôt ça.
Oui, ils ont des relais, ils en ont au Libye, ils en ont. Au Sinaï, ils en ont un peu partout. Je veux dire que l'important, si vous voulez, si on parle de l'Irak, c'est de donner une chance aux sunnites irakiens. Bon, après ça, la Syrie, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, quand même, je vois qu'on n'a pas encore dit une chose, c'est que nous avons des alliés très ambigus. Enfin, depuis le début, qu'est-ce que ça veut dire ? On est allié avec des Saoudiens qui financent nos adversaires et qui tuent nos amis. Ou pas nos amis, mais en tout cas qui pratiquent une politique qui n'est pas la nôtre. Nous avons les Qataris.
Les Saoudiens qui financent, peut-être un peu plus complexe que ça quand même. C'est pas le gouvernement saoudien qui finance directement aujourd'hui l'État islamique.
Bien sûr que si, ils prétendent toujours que c'est des fonds machin. Moi, pendant l'Afghanistan, je m'en souviens très bien, c'était des fonds privés. Et puis, quand la guerre s'est terminée, le type qui dirigeait les services, dont je me souviens pas du nom, Al-Turki, c'est ça. Al-Turki a dit, c'est nous. C'est nous qui avons tout organisé. Il était tout fier d'avoir réussi à écraser, la présence soviétique. Mais bien sûr que c'est les Saoudiens. On ne peut rien faire, de toute façon, sans le contrôle de l'État. Il faut être sérieux. Les Qataris, c'est pareil. Les Turcs, vous croyez qu'on peut faire quelque chose sans Erdogan ? Non, ce sont des alliés plus qu'ambigus. Si on parlait plus franchement, on dirait qu'on est entre faux culs. Et puis voilà.
Oshan Daoud.
Bon, ce qui dégira, c'est le bon sens, c'est juste.
Juste.
On peut pas dire que tous ces acteurs ils sont en train d'agir et d'une manière qui apporte préjudice au niveau régional et international, sans contrôle, sans être suivi par des États. Ça tient pas bout. Ça c'est évident. Mais la question qui se pose, c'est vrai, Daesh a une force d'attirance au niveau régional et international, mais Daesh, quand elle fonctionne en Irak et en Syrie, elle a une autonomie réelle. Daesh, c'est pas comme Al-Qaïda, c'est pas une organisation internationaliste. Mais Daesh, ça sert comme une vitrine. Elle peut envoyer des djihadistes ici, là, pour faire telle ou telle opération. Mais on peut pas dire que Daesh, ça, aujourd'hui, il prend une décision pour aller frapper tel ou tel pour gagner davantage en territoire djihadiste.
Et vous diriez que la vitrine, aujourd'hui, elle est un peu ébréchée, quand même ?
C'est largement. Je vous donne quelques données, quand même, de base, pour rassurer. Presque 90% de la direction de Daesh, depuis juin 2014, a été éliminée. Aujourd'hui, nous sommes davantage au sein de Daesh, on s'appuie sur deux instances. Ce qu'on appelle l'instance de légitimité religieuse, l'Ejna Sharaïa, et sur l'instance de ce qu'on appelle comité militaire. Et la plupart de ces gens-là, ils sont jeunes. Vous savez, le dernier wali, après celui qui était éliminé à Mossoul, il est né en 1987. Donc nous avons encore des militaires qui sont là, c'est vrai, dans une logique un peu mixte, très fluide, un peu à la Mongole. Avec des groupes qui se fait par 10 ou 30, avec des gens de capacité d'infliger des pertes et de se retirer. Vous voyez, avec tout cela, c'est vrai, nous avons un adversaire pas comme les autres, mais tout à fait vincible.
Caroline Galacteros, et ce sera la conclusion en quelques mots.
Oui, je dirais que, certes, nous avons des alliés extrêmement ambigus. Moi, personnellement, je ne les trouve pas si ambigus que ça. Je pense que c'est nous qui sommes terriblement ambigus. Et c'est nous qui devrions finir par décider un peu de ce que nous voulons faire dans cette région du monde et arriver peut-être à une restabilisation des structures étatiques au lieu de leur déstabilisation programmée et
soutenue. C'est un plaisir d'entendre ça. Parce que ça, je ne l'entends pas souvent.
Eh bien, ce sera la conclusion, le mot de la fin pour aujourd'hui, en tout cas, de cette émission. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci. Caroline Galacteros, Oshan Daoud et Gérard Chalian, vos ouvrages respectifs, c'est sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous pouvez podcaster, que vous pouvez commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Bayer, Isolde Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Clément Daté. Demain, on se retrouve pour le Club des Idées du Grain dans le cadre d'une journée spéciale sur France Culture. France, inventaire avant élection. On se demandera si la France est un pays qui compte 65 millions de présidents. Ce sera à partir de 18h20.